La CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé vers de nouveaux sommets.
Nous nous retrouvons comme tous les mois avec des membres de la CPTS des Bauges, la communauté professionnelle territoriale de santé des Bauges. Et aujourd'hui, je reçois certains de ses membres. Maude Duchesne, infirmière libérale. Bonjour Maude.
Bonjour.
Catherine Gou, infirmière libérale. Bonjour. Bonjour. Et Edmond Guillot, coordinateur de la CPTS.
Bonjour. Bonjour.
Et aujourd'hui, sujet passion, on va parler des maladies cardiaques. Alors j'avoue que j'étais un peu surprise d'avoir cette thématique-là pour la prévention parce que j'imaginais que les maladies cardiaques, ça concernait uniquement les personnes très très vieilles et donc il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une émission dédiée à ça. Mais il s'avère, Edmond, que ce n'est pas forcément le cas.
Alors ce n'est pas le cas, ça représente une cause de mortalité très importante dans toutes les couches de la population, et au niveau de l'ensemble de la population, ça représente 31% de l'ensemble des décès. Ce qui représente un chiffre absolument énorme, puisque ça représente au niveau mondial pratiquement 18 millions de décès liés aux maladies cardiovasculaires. Alors autre point intéressant et important, en Europe, 42% des décès chez les femmes sont liés à une maladie cardiovasculaire, contre 40% chez les hommes. Ça veut dire qu'en Europe, le taux de mortalité cardiovasculaire est encore plus important que sur l'ensemble de la planète. Et si on revient à notre échelle un peu plus locale, nous avons aujourd'hui un taux de personnes atteintes par des maladies cardiovasculaires de 8,2% de la population des Bauges. Le chiffre est légèrement supérieur aux résultats départementaux et nationaux. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans un territoire nature et un peu protégé que sont les Bauges, on a des chiffres de maladies cardiovasculaires qui sont très importants. Bien que la prévention soit quand même assez largement répandue, puisque sur le territoire des Bauges, on a plus de 12% de la population qui a un traitement contre les maladies cardiovasculaires. C'est beaucoup, hein, c'est plus d'une personne sur 10. Donc les personnes sont globalement bien suivies par les professionnels. Mais malgré tout, on a un nombre de malades importants et un nombre de décès importants dus à cette maladie.
Donc ça ne concerne pas que les personnes très très vieilles comme je le pensais.
Non, et ça concerne beaucoup de personnes.
Avant d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'on sont les maladies cardiaques, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur comprendre déjà comment ça fonctionne un cœur et qu'est-ce que c'est un cœur ? À quoi ça sert ?
Donc on va faire un petit rappel anatomique concernant le cœur sain, ce qui ne présente aucune pathologie. Donc le cœur est un muscle essentiel qui agit comme une pompe qui, pour assurer la circulation sanguine dans tout le corps. Et c'est un petit muscle, 300 grammes. Il est composé de 4 cavités, 2 oreillettes, une gauche, une droite, et 2 ventricules, gauche et droite, pareil. Donc il a 3 principales fonctions. La circulation sanguine, il propulse le sang oxygéné dans tous les organes, et récupérer le sang désoxygéné chargé de toxines, de déchets. Et c'est un circuit sans fin. La deuxième fonction, c'est le maintien de la pression artérielle. En ayant des contractions rythmiques régulières, il régule la pression nécessaire pour faire circuler le sang. La troisième fonction, c'est la distribution des nutriments et l'élimination des déchets. Ça recoupe ce que je disais initialement de la circulation sanguine entre le sang oxygéné et les nutriments et récupérer les déchets métaboliques. Ses caractéristiques principales incluent que c'est un système autonome. Il est robuste, il est actif tout au long de la vie et il s'adapte aux besoins du corps en fonction de l'activité physique, des efforts, en améliorant ou en diminuant le rythme cardiaque. Après, bien évidemment, ce cœur sain peut avoir des maladies, ce que Maude va vous expliquer.
Alors oui, on va essayer de comprendre justement pourquoi il y a un moment, il va y avoir un grain de sable dans la machine. Qu'est-ce qui peut dysfonctionner chez un cœur ?
Alors beaucoup de choses, c'est un organe qui est essentiel et qui fonctionne, comme le disait Catherine, tout au long de notre vie. Donc les maladies cardiaques, elles regroupent plusieurs pathologies qui ont des causes différentes et des symptômes et des impacts qui sont variés. Donc principalement, je vais vous en présenter quelques-unes les plus connues. La première, donc, c'est l'infarctus du myocarde, donc la crise cardiaque. L'infarctus, en fait, survient lorsque l'apport du sang vers une partie du muscle cardiaque est bloqué, généralement par un petit caillot dans une artère, qu'on dit une artère coronaire. Donc, en fait, c'est le muscle du cœur qui dysfonctionne à cause d'un petit thrombus, d'un petit caillot qui vient boucher une artère du muscle cardiaque. Donc les principaux symptômes, ça va être donc une douleur intense dans la poitrine qui peut irradier vers le bras gauche principalement, un essoufflement, des sueurs froides, ça peut être aussi des nausées, une fatigue extrême. Donc ça, c'est l'infarctus du myocarde. Ensuite, l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est une deuxième pathologie qui n'est pas une pathologie de l'urgence comme l'infarctus, qui se caractérise plutôt par l'incapacité du cœur à pomper suffisamment le sang pour répondre aux besoins de l'organisme, ce qu'expliquait Catherine tout à l'heure. Donc les principaux symptômes, on les retient, nous, assez facilement par des sigles qu'on appelle EPOF, E-P-O-F, qui va être l'essoufflement, la prise de poids, des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements au niveau des jambes, des membres inférieurs et de l'abdomen, et une fatigue qui persiste. Donc ça, c'est au sujet de l'insuffisance cardiaque. Une troisième pathologie qui est très connue, c'est l'hypertension artérielle. C'est le fait que la tension dans les artères, en fait, est trop élevée, et ça peut endommager les artères et le cœur. Les principaux symptômes, souvent, vont être des maux de tête, des vertiges, il peut y avoir aussi des saignements de nez, mais on s'en rend compte parfois tardivement parce que c'est très fréquent qu'elles soient asymptomatiques. Donc c'est important de prendre régulièrement sa tension à partir d'un certain âge ou lorsque on a des maux de tête un petit peu fréquents, voilà, ou des sensations vertigineuses. Quatrième pathologie qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, donc c'est l'angine de poitrine ou l'angor. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un peu plus comme l'infarctus, qui va être pas quelque chose au long cours, mais qui survient de façon temporaire sous forme d'oppression dans la poitrine qui est causée par une diminution de l'apport sanguin dans le cœur. Et c'est souvent pendant un effort. Donc les symptômes vont être, comme je vous l'ai dit, une douleur ou un inconfort dans la poitrine et souvent lors d'un effort ou d'un stress. Donc d'un coup, ça va nous serrer dans la poitrine suite à une émotion où on monte les escaliers, par exemple, on monte les courses, où on court et ça nous serre, ça fait un point dans la poitrine. Et voilà, donc ça peut être le signe de ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Ensuite, l'arythmie cardiaque. Donc l'arythmie cardiaque, c'est plutôt des troubles du rythme cardiaque. Le cœur, c'est une pompe, il a un système électrique, il fonctionne par battements réguliers. Quand vous prenez votre pouls, quand vous sentez votre cœur battre, les battements, c'est comme à la batterie, ils sont plutôt réguliers. C'est un tempo qui est régulier. Et l'arythmie, c'est donc que le cœur ne bat pas régulièrement. Et donc, la problématique d'un cœur qui ne bat pas régulièrement, soit parce que les battements sont trop rapides ou trop lents ou irréguliers, ça peut créer des palpitations, des vertiges, un essoufflement, voire un malaise un évanouissement. Le problème de l'arythmie, c'est qu'il y a du sang qui va stagner au niveau du cœur et qui peut du coup créer un petit caillot, un petit thrombus. Et ça, c'est un risque qui peut être majeur, qui peut être un risque grave et surtout une urgence. Donc ensuite, les maladies des valves cardiaques. Donc ce que vous expliquiez tout à l'heure, Catherine, c'est que le cœur donc, est composé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, gauche et droite. Et entre les oreillettes et les ventricules, il y a des petites valves. C'est comme des portes, des petits clapets qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction des battements du cœur pour faire passer le sang ou au contraire, éviter qu'il passe. Donc ça, ce sont les valves cardiaques. Et une problématique de valves cardiaques peuvent créer des anomalies comme un épaississement ou une fermeture incomplète qui peuvent du coup perturber le flux sanguin entre ces cavités. Donc les symptômes vont être aussi un essoufflement, de la fatigue, les œdèmes, ce que je vous expliquais, les gonflements des jambes, des douleurs thoraciques. Enfin, l'athérosclérose, donc qui est une maladie qui est plutôt insidieuse puisque c'est une maladie qui veut qu'elle accumule en fait des plaques de graisse, de cholestérol, de calcium. Donc c'est tout un petit cocktail bien sympathique qui vient s'insérer dans les parois des artères et qui du coup diminue le diamètre, nous on appelle ça la lumière, des artères et qui empêche le flux, enfin du moins qui diminue le flux sanguin, voire qui peut complètement le bloquer. D'accord ? Et c'est ça qui peut créer un infarctus, voire un AVC. Donc les symptômes vont être asymptomatiques jusqu'à ce qu'il y ait une complication. C'est ce que je voulais vous expliquer. Donc en fait, ces accumulations de dépôts vont être asymptomatiques. Et puis, ce qui n'est pas du tout systématique, mais en cas de gravité, soit obstruer complètement la lumière d'une artère, soit lâcher un thrombus, c'est-à-dire un petit caillot qui peut s'échapper dans la circulation sanguine et du coup provoquer un AVC, par exemple.
Edmond le disait tout à l'heure, dans les chiffres qu'on donnait en introduction, il y a quand même une différence d'affection sur les maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes. Est-ce que sur le fait que l'une ou l'autre de ces maladies interviennent, il y a aussi des différences du fait qu'on soit un homme ou une femme ?
Alors il y a effectivement des différences. Les hommes sont plus susceptibles de développer des maladies coronariennes à un âge précoce. Donc en fait, ils ont des problèmes cardiaques plus tôt que les femmes. Souvent, ils commencent à être touchés par ce type de pathologie à partir de 40 ans. C'est assez courant. C'est aussi pour ça que c'est à partir de cet âge qu'il faut essayer de se suivre régulièrement pour justement, comme le disait Maud, essayer de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop graves. Par contre, les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, sont aussi touchées, mais elles le sont significativement après la ménopause. Finalement, elles sont protégées par leurs hormones jusqu'à la ménopause. Mais par contre, après la ménopause, alors donc c'est souvent plutôt à partir de 50 ans, donc un peu plus tard que les hommes, en fait, leur risque de maladie cardiovasculaire rejoint statistiquement celle des hommes. Et finalement, qu'on soit un homme ou une femme, on a, à partir de 50 ans, les mêmes risques. Une étude récente a montré que les femmes souffrent de symptômes qui sont un peu différents de ceux des hommes, comme une fatigue intense, des nausées, des douleurs au dos. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a souvent mal au dos, mais le mal de dos, ça peut avoir comme alerte des tas de maladies, dont les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, des douleurs à la mâchoire, là aussi c'est un peu curieux, mais des problèmes d'estomac. Donc finalement, toutes les petites douleurs qu'on peut avoir à partir de 50 ans peuvent être un signe d'alerte de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que le suivi avec son médecin est très important et que le signalement de ces petites douleurs qui au quotidien ne paraissent pas forcément très graves sont importantes parce que le médecin, lui, pourra faire les examens nécessaires pour identifier une pathologie naissante ou à venir et lancer un dispositif de prévention.
Oui, donc ça vaut le coup de savoir qu'avoir mal au dos, à la mâchoire ou à l'estomac peut être lié à une maladie cardiovasculaire, parce que ça paraît pas quand même d'une évidence née au premier symptôme.
Non, c'est pour ça qu'on l'explique. Voilà. De toute façon, en fait, le corps lance des alertes, hein, et des douleurs, c'est toujours une alerte qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, c'est très important sur les maladies cardiovasculaires. Parce que il faut faire de la prévention, il faut s'y prendre tôt. Et dès qu'on a une petite alerte, il faut absolument vérifier que tout fonctionne correctement.
Et souvent, d'ailleurs, en fait, ces signes sont majorés à l'effort. Le cœur, c'est un muscle, c'est ce qu'on expliquait. Et en fait, il est plus sollicité quand on a besoin d'aller plus vite. C'est comme le reste des muscles du corps. Et les symptômes vont être majorés. Donc, quand on a une douleur au niveau de l'estomac ou dans la mâchoire ou dans le bras qui vient irradier comme ça ou que ça nous serre et que c'est majoré quand on monte un escalier, quand on sort de sa voiture, quand on sort le chien et que finalement, on marche un petit peu. Voilà, toutes ces petites douleurs, comme disait Edmond, qui vont être intensifiées, amplifiés à l'effort doivent quand même vous alerter et faire consulter un professionnel de santé.
À vous écouter, j'ai l'impression que dans 10 ans, pour moi, c'est fichu.
que voilà, mon cœur va me lâcher. Est-ce qu'il y a quand même des moyens de se prémunir des maladies cardiovasculaires et de diminuer le fait que bah, pour les hommes à 40 ans et les femmes à 50 ans, ça y est, ça s'arrête?
Alors oui, ça c'est la bonne nouvelle. Effectivement, en fait, on est quand même acteur de notre santé et de notre bien-être et de notre vie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, on met ça sous le titre de prévention, mais c'est surtout sur le fait de bien vivre. Et bien vivre, c'est adopter une alimentation équilibrée, pour commencer, en limitant les aliments qui vont être riches en graisses saturées, ce qu'on appelle les graisses saturées et trans, qui vont être plutôt les fritures et tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est industriel, en fait. Parce qu'il faut dissocier les graisses saines, qui vont être l'huile d'olive, par exemple, ou les avocats, les noix, tous ces aliments qui sont gras, mais qui contiennent du bon gras, et les aliments qui vont être gras avec des graisses qui sont hydrogénées ou qui sont industrielles. Hein. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ce qui est important, c'est de réduire sa consommation en sel. Et vu qu'on a une tendance aujourd'hui à manger des produits qui sont très transformés, le sel est un exhausteur de goût, il y en a vraiment deux partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sel, en fait, augmente la tension, augmente la pression artérielle. Et les recommandations aujourd'hui de l'OMS sont 5 grammes par jour de sel. Alors, je vous encourage à le faire. Mettez 5 grammes de sel sur une balance pour visualiser. Vous vous rendrez compte que c'est très peu.
C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
Je crois que c'est une cuillère à café.
C'est ça. C'est très, très peu. Et le sel est caché, en fait, de partout. Et enfin, ce qui est important au niveau de l'alimentation, c'est d'augmenter votre consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes. Donc, éviter tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, plutôt le semi-complet, voire le complet, même pour les enfants. Alors, on a tendance à dire que c'est un peu moins digeste sur tout ce qui est complet. Donc, les céréales semi-complètes sont un bon compromis parce que ça ne change pas le goût. Et il y a quand même un apport nutritionnel qui est beaucoup plus intéressant. Et enfin aussi, privilégier tous les poissons. Alors ici, c'est vrai qu'on est loin de la mer, mais quand même, il y a les poissons d'eau douce, mais tous les poissons gras qui sont riches en oméga-3. Les oméga-3, en fait, sont protecteurs au niveau cardiovasculaire. Et donc, comme le saumon, le maquereau, ça c'est facile d'en trouver même en conserve. Voilà, ça peut être des fois de remplacer la tranche de jambon cru ou de saucisson par un peu de sardine ou de maquereau sur la tartine.
Ça, c'est l'alimentation, c'est donc une première piste, déjà pour diminuer les risques, si j'ai bien compris. J'imagine qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi pour vieillir en bonne santé avec un cœur sain.
Bah, de toute manière, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Toutes les recommandations qu'on va vous donner sont aussi valables pour beaucoup de prévention de maladies chroniques. Donc, bien évidemment, faire de l'exercice physique régulier, parce que l'activité physique diminue la pression artérielle, augmente la circulation sanguine, aide à contrôler le poids. Donc, pratiquer 2 à 3 fois par semaine un renforcement musculaire, de la marche à pied, en 150 minutes, ça fait quoi, 2 heures par semaine à peu près. Après, ça peut paraître énorme pour beaucoup de gens, mais je pense qu'il faut déjà mettre ses baskets, prendre un tapis de yoga, danser, bouger, se mettre en mouvement. Et petit à petit, à force de se mettre en mouvement, on arrive à augmenter le temps, l'endurance, la force physique. Donc il ne faut pas hésiter à bouger, même si ça paraît peu, mais quel que soit son âge, on peut bouger avec ce qu'on est, avec sa capacité, et au fil du temps, on l'améliore. Et plus on améliorera, plus ça limitera le risque de maladies chroniques.
Je ne suis pas obligée de devenir marathonienne pour avoir un cœur en bonne santé.
Non, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, faut pas
en fait, on n'a pas forcément besoin de faire du sport. Il faut simplement, dans sa vie quotidienne, faire de l'exercice physique. Ça veut dire que si on peut marcher pour aller chercher le pain, qu'on n'a pas besoin de prendre sa voiture parce qu'on est proche, eh ben, il ne faut pas hésiter à marcher ou à prendre son vélo et ne pas prendre sa voiture. Utiliser un vélo, c'est la même chose. C'est pas nécessairement du sport, mais c'est faire de l'exercice physique. Et c'est vrai que, comme le disait Catherine, c'est important aussi de marcher. Et la marche, je crois que c'est quelque chose d'essentiel dans la bonne santé. Et c'est valable pour toutes les maladies, hein, comme le disait Catherine. Et c'est vrai que finalement, avec notre mode de vie, on a un peu perdu l'habitude de marcher. Et c'est très important de faire de la marche régulièrement. Et on n'a pas besoin de faire 50 km de marche. Hein. Alors si on les fait, c'est tant mieux.
Oui.
Mais c'est pas du tout nécessaire pour être en bonne santé. On peut marcher de manière très régulière sur des petites distances. Et l'accumulation des kilomètres de marche sur une semaine, bah, ça peut maintenir finalement le corps en bonne santé.
Oui, parce que faire du sport, ça fait peur aux gens qui sont inactifs. En fin de compte, c'est pas faire du sport, c'est lutter contre la sédentarité surtout. Déjà, bouger. Même si on bouge peu, c'est toujours mieux que rien. Et le peu, petit à petit, va faire de plus en plus. Donc, il faut pas que les gens aient peur de se dire « mais moi, je peux pas faire du sport ». Il faut simplement déjà se mettre en mouvement. Et le petit à petit, on progresse.
Oui, moi, je crois que, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'on... Finalement, on marche moins qu'en ville. On est dans un territoire de nature où on pense qu'il y a beaucoup d'activités, mais on prend notre voiture pour tout quasiment parce qu'on n'a pas la proximité directe de toutes les infrastructures. Et en fait, ce qui est important aussi que j'aimerais souligner, c'est la régularité. Il vaut mieux en faire moins, mais souvent, que faire beaucoup d'un coup, parce que là, il y a très peu d'intérêt. Et ce que disait Catherine Edmond était très juste, ce qui est important, c'est pas de faire du sport, c'est de rester actif. Voilà, ça veut dire aller à la boîte aux lettres, aller voir le voisin, mais voilà, on y va à pied, on prend son vélo, on sort le chien, on va peut-être 100 mètres plus loin, et puis une semaine après, on y va un petit peu plus, et puis voilà. Mais la régularité est aussi un facteur déterminant pour maintenir son cœur en bonne santé.
Par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté. Cette foutue envie de te battre fait sauter le moniteur, mon cœur. We'll be right back.
Lydia, mon cœur. Et c'est bien de cœur dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'avec la CPTS des Bauges, nous abordons la thématique des maladies cardiovasculaires. Comment s'en protéger ? Nous sommes en train de faire le tour de la question avec Maud Duchesne et Catherine Gou, infirmière libérale, ainsi qu'Edmond Guillot, coordinateur de la CPTS.
Donc après l'alimentation, l'exercice régulier, comme tu le soulignais Maud, est vraiment un facteur essentiel. Catherine, on peut poursuivre justement sur ce qui peut nous maintenir en bonne santé.
Alors, l'arrêt du tabac, bien évidemment, comme toujours, hein, parce que l'arrêt du tabac réduit immédiatement le risque d'infarctus, et dès qu'on arrête de fumer, très très rapidement, on a les bénéfices de l'arrêt du tabac par rapport à l'amélioration du goût dans l'alimentation. Donc déjà, ressentir plus ses saveurs de ce qu'on mange, avoir plus de souffle pour bouger et réduire le risque d'infarctus. Donc c'est que du bénéfice. Et après, y a d'autres thématiques qui interviennent aussi.
Edmond, oui, on peut en savoir un peu plus justement sur quels sont les autres facteurs qui peuvent aider à diminuer ces risques cardiovasculaires.
Alors, on a un facteur qui est très important pour beaucoup de pathologies, mais en particulier pour le risque cardiovasculaire, c'est le maintien d'un poids de forme, je dirais. Après, il n'y a pas tellement de règles, même si on a des calculs d'IMC, de masse corporelle, que tout le monde connaît. Mais après, ça dépend aussi des morphologies, donc c'est pas forcément un critère très important. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un poids maîtrisé et un poids que j'appellerais de forme pour chacun, c'est un élément important de prévention du risque cardiovasculaire. On a quelques chiffres malgré tout. Un des éléments qui peut devenir un vrai risque, c'est l'obésité abdominale, c'est-à-dire le tour de taille, quoi, en gros. Si vous commencez à élargir l'écran de votre ceinture, il faut commencer à vous poser quelques questions. Et pour donner quelques chiffres, la surveillance du tour de taille, globalement pour les femmes, elle doit pas être au-delà de 88 cm et pour les hommes de 102 cm. Après, on appelle ça de l'obésité abdominale, hein. C'est-à-dire qu'on a le ventre qui gonfle. Alors naturellement, à partir d'un certain âge, on a tendance à avoir le ventre qui augmente. C'est assez normal et assez naturel. C'est aussi pour ça qu'à partir d'un certain âge, on est plus à risque cardiovasculaire que quand on a 20 ans, évidemment. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller et sur lequel, voilà.
Mais aussi, on vit aussi beaucoup plus longtemps maintenant, donc on a tendance à avoir une population, on dit, vieillissante, mais 40 ans, c'est jeune, 50 ans, c'est jeune, et c'est déjà là où notre cœur, en fait, peut nous envoyer des premières alertes. Et donc, c'est vraiment important de mettre en place toutes ces préventions. Et en fait, c'est même pas de la prévention, c'est surtout des bonnes habitudes de vie.
Et alors, l'autre facteur intéressant, on va dire, en termes de prévention, auquel j'aurais pas forcément pensé, autant le tabac, le contrôle du poids, l'alimentation, faire de l'exercice, c'est des choses qu'on entend toute la journée, mais celui qui vient après, c'est la gestion du stress.
Absolument, on est dans une société où malheureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus de stress, hein, lié à son travail, lié à ses problèmes personnels, familiaux ou autres. Et c'est vrai que le stress, c'est un élément important de risque cardiovasculaire. Maud l'a expliqué tout à l'heure. Hein. C'est vrai que ça a un impact direct sur le cœur. Il faut arriver à trouver des moyens de gérer son stress. Alors, Catherine l'a dit tout à l'heure, je pense que faire, par exemple, du yoga, c'est quelque chose de très intéressant. Moi j'en fais, c'est pas du sport, mais c'est quand même une manière de se déstresser sans faire un exercice physique très important. Mais par contre, c'est finalement une pause dans notre vie quotidienne qui aujourd'hui est trépidante. Et se ménager des pauses, c'est quelque chose de très important. Alors pas nécessairement avec du yoga, mais simplement faire une pause. Prendre un bouquin, se poser une heure pour lire tranquille, déconnecté de sa vie quotidienne et de ses problèmes personnels. C'est aussi de la prévention du risque cardiovasculaire.
Alors, il y a quand même déjà beaucoup là de petits créneaux qui sont donnés et on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres, justement facteurs ou choses à mettre en place pour prendre soin de son corps. Alors Maud, on peut en savoir un peu plus ?
Oui, il y en a encore. La liste est très longue, mais voilà, on essaye d'évoquer les principales. Donc, comme l'expliquait Edmond, le stress peut aggraver une maladie cardiaque ou même la provoquer. Techniquement, tout simplement parce que quand on est stressé, on augmente notre rythme cardiaque et donc on utilise davantage notre cœur. Dans la gestion du stress vient aussi la gestion de son sommeil. Et dormir entre 7 et 9 heures par nuit, ce sont les recommandations en fait, nationales pour un bon sommeil et un bon équilibre toute la journée. Donc, parce que le manque de sommeil chronique, puisqu'on a tendance à de moins en moins dormir avec les écrans, nos téléphones qu'on garde à côté de nous, la télé qu'on regarde de plus en plus tard, par exemple, augmente le risque d'hypertension, d'obésité, puisqu'on est sur l'écran et du coup on bouge moins, et du coup de diabète. Donc un bon sommeil aussi préserve notre cœur. Un autre élément qui est important, Catherine parlait du tabac et souvent on parle aussi de l'alcool. Une consommation excessive d'alcool augmente de la même manière en fait la tension. Et en fait, simplement la tension artérielle, si vous voulez, c'est la pression dans nos artères. Quand on dit par exemple j'ai 12,6 de tension, ça veut dire que 12 c'est le chiffre quand mon artère elle va être le plus serrée, le plus contractée, et 6 c'est quand elle se relâche. Donc en fait une artère elle est jamais complètement dilatée et elle est jamais complètement contractée. Donc quand on a de l'hypertension, c'est que nos artères sont toujours trop contractées. Et ça, donc, ça crée une tension qui est permanente. Et quand on fait de l'hypotension, que la tension est trop basse, c'est qu'au contraire, nos vaisseaux sont trop dilatés. Donc, l'alcool, elle, va avoir tendance à augmenter la pression artérielle. Et les recommandations autour de l'alcool ne sont pas plus de 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes. Et donc, en fait, une bonne façon de pouvoir aussi vérifier que tout va bien, c'est de faire régulièrement des bilans à partir d'un certain âge ou de vos facteurs de risque, si vous consommez un peu trop d'alcool ou si vous fumez, si vous êtes stressé, etc. Il y a différents marqueurs qui peuvent être très facilement étudiés par une prise de sang. Par exemple, pour voir le taux de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est ces petites, ça nous permet de voir aussi s'il y a des petites plaques d'athérosclérose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les artères. Surveiller la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et puis ça peut être aussi l'occasion, vous pouvez demander à votre infirmière ou à votre médecin lors d'un prélèvement, de prendre simplement la tension pour voir si tout va bien à ce niveau-là.
Ça, c'est des choses donc, qu'on peut mettre en place au moment de bilan de santé. Est-ce que, au-delà de ces bilans de santé qu'on fait plus ou moins régulièrement et notamment plus régulièrement avec l'avancée en âge, il y a des signes qui doivent nous inquiéter et nous alerter en disant là, il peut y avoir problème.
Oui, tout à fait. Il y a des signes cliniques, physiques qui doivent interpeller le patient pour pouvoir s'orienter vers un professionnel de santé. Donc, il y a déjà en premier, la douleur thoracique, qui est une sensation de serrement, de brûlure au niveau du thorax, souvent qui irradie, qui va jusque dans le bras gauche, la mâchoire, le dos et le cou. Il y a aussi l'essoufflement subi, difficulté à respirer au repos et qui est majoré à l'effort. Il y a les palpitations, l'impression d'entendre son cœur battre très 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 vite dans les tempes, irrégulièrement, d'une manière irrégulière ou très forte. Il y a aussi la fatigue inhabituelle, une sensation d'épuisement, même sans effort, même au repos. La sensation de vertige aussi, des tours d'évanouissement. Au niveau des pieds, des membres inférieurs, des chevilles, un œdème, c'est-à-dire un gonflement. Il y a aussi les nausées, les vomissements, les sueurs froides. Et le teint pâle, bleuâtre, alors c'est vrai que ça, on ne peut pas forcément se le voir soi-même, c'est souvent un tiers qui peut s'en rendre compte. Donc ça, c'est différents signes cliniques que les gens peuvent ressentir. Et il y a un rappel mémotechnique, EPOF, E-P-O-F, surtout dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, essoufflement, prise de poids rapide, œdème au niveau des membres inférieurs, pieds, jambes et fatigue excessive.
Donc si on a un ou plusieurs de ces symptômes, ah oui, est-ce qu'un symptôme on s'en fiche et il faut avoir toute la liste pour s'inquiéter?
Non, pas toute la liste, okay. Un suffit.
Donc si on a un de ces symptômes qu'on ressent, qu'est-ce qu'on fait?
Alors en fait, en cas d'alerte, il faut adopter trois principes. Alerter, protéger et secourir quand quelqu'un a un problème cardiaque. Si la douleur thoracique dure plus de 5 minutes, et qu'elle s'intensifie et qu'elle s'accompagne d'autres symptômes dont on a parlé, comme les sueurs, comme les palpitations, comme les nausées, comme l'essoufflement, il faut appeler le service d'urgence, le 15, tout de suite, parce que en cas de problème cardiaque, la rapidité d'intervention est très très importante. C'est ce qui permettra souvent de sauver la vie de la personne qui a un problème. Plus on intervient vite, plus on a des chances de ne pas avoir de conséquences. Et un problème cardiaque, comme le disait Maud tout à l'heure, ça peut avoir des conséquences graves tout de suite, même si ce n'est pas forcément le décès directement. Ça peut avoir des conséquences importantes. Et en fait, il faut absolument ne pas attendre que ça passe, comme on dirait. Dès qu'on a des symptômes de ce type-là, il faut appeler le 15 et faire intervenir un professionnel tout de suite.
Donc on ne fait pas comme mon grand-père en disant « bof, ça finira bien par s'en aller ».
Ben non, il faut éviter. Alors on le disait, il y a une chose qui est importante aussi, quand une personne... À un problème, en fait, il faut la mettre ce qu'on appelle en sécurité. En fait, il faut la placer en position semi-assise ou allongée, dans un endroit calme, desserrer les vêtements trop serrés pour faciliter la respiration, parce qu'on a souvent des difficultés à respirer. Et puis, si on en est en capacité, administrer les premiers secours le plus vite possible. Si la personne... perd connaissance, on vérifie qu'elle respire, et évidemment on appelle directement les secours si elle ne l'a pas fait de son côté. Si elle ne respire pas, il faut effectuer un massage cardiaque quand on est en capacité de le faire. C'est vraiment important. Il y a une chose qu'il ne faut absolument pas minimiser, c'est que si les symptômes disparaissent rapidement, il faut absolument consulter un médecin. Et pas se dire « Oh ben voilà, j'ai eu un petit problème, mais c'est passé et tout va bien ». Ça veut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose et qu'il est indispensable de faire un bilan complet pour vérifier si finalement ce petit incident, c'est pas une vraie alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut effectivement être pris en charge.
Parce qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui peuvent avoir des symptômes passagers?
Oui, bien. Alors, il y a des maladies cardiovasculaires même qui sont asymptomatiques. Ce qu'on disait, l'hypertension, tu peux avoir 20 de tension et puis finalement pas sentir grand-chose, un petit peu de mal de tête. Et puis voilà, après, transitoire, non. Après, une fois que le cœur, en fait, t'envoie des signes d'alerte, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en route, il y a quand même un dysfonctionnement. Et comme le disait Edmond, c'est très, très important d'avoir en tête que même un petit signe transitoire... doit permettre en fait de se dire tiens, il y a quelque chose qui dysfonctionne, donc je consulte. Il vaut mieux y aller pour rien que pas y aller du tout. Même une douleur, ça aussi c'est un message qui importe. En effet, on se dit oui, bon, ça me sert un petit peu, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien du tout. Une douleur thoracique, nous, quand on visite nos patients, n'importe quelle douleur thoracique, même légère, nous fait toujours systématiquement contacter un médecin pour avoir un avis, parce qu'on peut passer à côté de quelque chose de grave. Et il vaut mieux y aller pour rien que passer à côté d'une vie.
Donc ça, on a vu, c'est les cas un peu généraux. Est-ce que dans les Bauges, il y a des choses qui permettent justement de pouvoir réagir, ou alors on se dit qu'on est trop loin de tout centre de santé et que c'est fichu?
Alors, non, tout ça, ça reste quand même... c'est un sujet, comme d'habitude, qui n'est pas un sujet très drôle, mais quand même, il y a plein de choses qui sont faites. Nous, on essaie aussi de travailler dans ce sens-là pour protéger les patients. Et donc la CPTS et bien sûr l'ensemble des professionnels de santé, des acteurs de soins proposent beaucoup de choses au niveau de la maladie cardiaque. Première chose, on dispose maintenant d'une mallette qui est équipée d'un électrocardiogramme. Donc si un patient présente des douleurs thoraciques et qu'il est en lien avec le médecin peut, nous infirmières, nous mandater en nous disant voilà, tu vas faire un électrocardiogramme à cette personne parce que moi j'ai pas le temps d'y aller, voilà, peu importe. La maison médicale aussi est équipée d'un électrocardiogramme pour pouvoir diagnostiquer un éventuel trouble du rythme ou un infarctus ou un dysfonctionnement au niveau électrique cardiaque. Les pompiers aussi, depuis une petite année maintenant, sont habilités à faire des électrocardiogrammes, pompiers d'ébauche, donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est aussi des chances en plus pour les patients, qui c'est pas négligeable, puisque eux interviennent encore davantage que nous, évidemment, sur les urgences. Toutes les communes sont équipées de défibrillateurs. Et moi, je vous invite, lors d'une petite balade, voilà, quand tout va bien, qu'on est sans stress, d'aller voir où se situent les défibrillateurs, de se dire, ah bah tiens, nous, par exemple, à Bellecombe, ça va être à la mairie, il y en a un à l'école, au Châtelard, il va être à tel endroit ou tel endroit, pour que si un jour on en ait besoin, ça évite et qu'on sache où il est. Il faut repérer l'appareil. Ensuite, donc la CPTS forme les jeunes au premier secours. Donc cette année, alors ça fait déjà l'année dernière, mais cette année, on forme des collégiens, donc les 5e et les 3e sur une journée, donc pour ce qu'on appelle le PSC1. C'est une des premières formations certifiantes pour prendre en charge des urgences, y compris des urgences cardiaques. On ouvre aussi cette année aux primaires avec une petite formation de 2 heures qui sont les gestes qui sauvent pour les CM2. Donc tous les CM2 des Bauges vont être formés. On forme aussi des instituteurs, l'approviseur du collège cette année qui s'inscrit aussi dans ce processus de formation. Et on invite évidemment le grand public à se rapprocher de nous pour les personnes qui sont volontaires et qui aimeraient faire ces formations. Il y a une prise en charge qui peut être faite en lien avec les communes qui ont envie de le faire. Et puis nous, CPTS, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de se former à ces gestes essentiels qui peuvent sauver des vies. Et enfin, alors là, on est plutôt sur l'urgence, mais on propose aussi ce qu'on appelle donc des programmes d'éducation thérapeutique du patient, donc là qui touchent des personnes qui ont déjà une maladie cardiaque, une maladie chronique cardiaque. Donc ce sont des parcours en lien avec l'insuffisance cardiaque et les maladies coronaires. Donc les maladies coronaires, ce sont les artères du cœur, voilà, où on propose des sessions. Alors, ce n'est pas de la formation ni de l'information, c'est plutôt s'autonomiser dans son parcours de maladie, apprendre un petit peu ce qui se passe dans son corps, son traitement, les bonnes habitudes, discuter avec d'autres patients. Voilà, c'est tout un parcours qu'on propose pour les patients qui sont porteurs de maladies chroniques cardiaques.
Pour la CPTS des Bauges, c'est une thématique qui nous paraît très importante. D'abord parce que les pathologies cardiovasculaires sont très répandues aujourd'hui. Qu'en plus, on est sur un territoire où on n'a pas de cardiologue, on n'a pas d'établissement hospitalier de proximité. On a souvent des habitats isolés. Ça veut dire que c'est souvent compliqué d'intervenir à domicile. C'est pour ça que dans le dispositif de la CPTS des Bauges, on s'appuie beaucoup sur le réseau des infirmières qui vont à domicile. Et c'est aussi la raison pour laquelle a été mis en place la mallette de télé-expertise qui permet de réaliser des électrocardiogrammes à domicile et donc d'identifier tout de suite des problèmes cardiaques en lien évidemment avec le médecin traitant, hein, puisque l'expérimentation qu'on mène depuis un an et demi, là, elle est assez positive. Hein,
oui, clairement.
On peut en témoigner.
Oui, clairement, on a sauvé des vies, en fait, avec cette mallette. Donc, voilà, tu arrives chez un patient qui présente les signes que Catherine vous a exposés tout à l'heure. Alors, pas tous, hein, il ne faut pas le tableau complet, mais un petit essoufflement, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, ça me serre un petit peu, ou j'ai mal à l'estomac, voilà. Nous, on effectue un électrocardiogramme tout de suite et on peut voir s'il y a des anomalies. Donc, soit avec les médecins traitants, mais aussi avec le centre 15, parce que ça nous permet directement d'envoyer l'électrocardiogramme, donc le tracé que tout le monde connaît et visualise. On l'envoie directement au médecin régulateur du SAMU qui, lui, ben, voilà, peut l'analyser et dire bon bah là il y a effectivement un trouble du rythme ou c'est un infarctus, il faut intervenir rapidement. Et dans ce cas-là, plutôt que ce soit les pompiers qui montent, on descend le patient, on fait l'électrocardiogramme uniquement à l'hôpital. Là, on déploie tout de suite le SAMU, plutôt les gros moyens, et c'est un gain de temps énorme, et surtout un gain de temps énorme pour le patient et pour ses chances.
Et il faut dire que c'est quand même une grande chance pour le territoire des Bauges, parce que c'est quelque chose qui n'est pas généralisé partout. Et c'est finalement une expérimentation qu'on mène dans le cadre de la CPTS sur les Bauges. Et ça nous paraissait un outil indispensable compte tenu de la configuration du territoire. Et finalement, on apporte aux patients des outils grâce à l'informatique connectée aujourd'hui en santé. Directement au domicile des patients, quoi. Et je pense que... Alors, on a la chance de pouvoir le faire dans les Bauges grâce à la CPTS. Et je pense que c'est très important et c'est la médecine de demain. Et finalement, on est un peu en avance dans les Bauges parce qu'on travaille évidemment beaucoup avec les autres CPTS du département de la Savoie et même de plus loin. Mais c'est vrai qu'on est les seuls à expérimenter ce type de dispositif aujourd'hui. Et donc, on est dans les Bauges un peu en avance. Donc, on est fiers de l'être.
C'est sûr.
Et on le dit parce que, voilà, parce que ça nous paraît important. Mais surtout, en dehors de cette fierté, on pense que c'est très important pour les habitants des Bauges de pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies qui existent aujourd'hui. Parce que ça répond aux besoins du territoire et à ses spécificités.
Et moi, ce que je rajouterais, et notre volonté aussi, c'est de garder la dimension humaine avec ces outils. On n'est pas dans une cabine de téléconsultation où on parle à un ordinateur. Là, c'est apporter des outils qui vont être essentiels et qui vont faire gagner du temps en gardant quand même l'expertise de votre soignant et qui crée du lien et de la facilité et de la rapidité. Voilà, c'est utiliser un outil à bon escient, c'est potentialiser l'informatique, voilà, tous ces domaines qui nous paraissent un petit peu lointains dans notre milieu préservé, mais qui finalement, voilà, met aussi en valeur l'expertise de vos soignants et de vos professionnels de santé.
Et je pense aussi qu'il faut que tout le monde soit sensible aux signes d'alerte, que tout le monde ait connaissance un peu des signes d'alerte, que tout le monde soit à l'écoute de son corps et que quand il y a quelque chose d'anormal, faut pas hésiter à interpeller, ne serait-ce l'aide à domicile, le pharmacien, l'infirmière, le kiné, quelle que soit la personne, pour que ça puisse remonter et qu'on puisse dire allez consulter, restez pas comme ça, vous pouvoir faire le 15, qu'il y ait cette connaissance des symptômes et que notre corps en bonne santé ne donne pas de signe d'alerte. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, être à l'écoute de ce corps et de pouvoir alerter et qu'on ait connaissance qu'un symptôme, même si par anodin, peut avoir des conséquences graves, quel que soit l'âge. Et qu'on soit avec un cœur sain ou un cœur déjà malade.
Et même sportif, hein, on voit des sportifs qui font des infarctus, et même jeunes, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un muscle, si on ne le sollicite pas, ben, il ne s'est pas tellement travaillé, il s'encrasse, si on peut dire ça comme ça. Quand on le sollicite trop, il peut aussi avoir des dysfonctionnements. Donc c'est ce que disait Edmond, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas que quand on est vieux. Voilà, prendre soin de son cœur, c'est un organe vital. C'est vraiment, il y a le cerveau, il y a le cœur. Alors, il y a plein de... On est des êtres complexes. Complexes, mais le cœur reste vraiment un organe majeur et central qu'il faut préserver tout au long de sa vie et des petits. Et on parlait de l'alimentation tout à l'heure et ça commence petit.
Donc, on rappelle que s'il y a quoi que ce soit, un petit alerte, un petit état d'alerte, il y a les professionnels de santé du territoire des Bauges qui sont à votre disposition. Merci beaucoup, Maud Duchesne, Catherine Gou et Edmond Guillot, pour avoir partagé ce moment de prévention.
Merci.
Merci. Merci.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bauges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.